Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chacun de nos invités étant chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, peut-on retrouver le sens de la fête? Les terrasses sont rouvertes depuis cette semaine, mais elles doivent pour une partie d'entre elles être débarrassées à 22h, une fois le dernier verre bu. Où aller faire la fête? Les discothèques et les clubs étant encore fermés, restent les appartements. Mais le confinement nous a habitués à un silence propice plutôt à écouter le chant des oiseaux que d'écouter les pulsations des basses. Tout cela tandis que la distanciation physique s'imposait comme norme de notre santé maintenue. Les professionnels de la fête, déjà tourmentés par des plaintes récurrentes contre les activités nocturnes, vont-ils survivre à Paris, à Lyon ou à Berlin à cette cure d'austérité? Et une fois que celle-ci sera terminée, retrouverons-nous ce sens de la fête? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Avec Emmanuel Lallemand, elle est anthropologue, professeur à Paris 8 à l'Institut d'études européennes. Bonsoir Emmanuel Lallemand.
Bonsoir.
Avec Vincent Carry, vous êtes directeur du festival Les Nuits Sonores à Lyon et vous avez fondé une scène indépendante, pourrait-on dire, à Lyon. Et puis ces Nuits Sonores n'ont pas pu avoir lieu cette année. Que va-t-il en advenir? Eh bien, vous nous le direz dans un instant. Et puis Luc Wadinski, que nous avions déjà reçu dans une autre émission consacrée à la nuit dans le temps du débat, géographe, maître de conférence à Grenoble-Alpes et qui a co-dirigé les Night Studies avec Marco Maggioli et William Stroh, qui sortiront la semaine prochaine, sera également avec nous. Bonsoir Luc Wadinski.
Bonsoir.
Mais je voulais commencer avec vous, Ludovic Piétenu. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes le correspondant de Radio France à Berlin et Berlin est au cœur de nos préoccupations. Si on s'intéresse à la question de la fête, on se dit voilà la capitale européenne de la fête ou une des capitales européennes de la fête qui se trouve dans une situation difficile. On se souvient d'un article d'il y a quelques semaines signé Thomas Vider dans Le Monde qui s'appelait « Les nuits berlinoises en sommeil ». C'était un très bon article qui nous expliquait justement combien les clubs berlinois étaient inquiets de ne pas pouvoir réouvrir ou rouvrir à la sortie justement de ce confinement. Qu'en est-il exactement, Ludovic Piétenu?
Eh bien, l'inquiétude depuis l'article, la parution de cet excellent article de l'ami Thomas Vider du Monde, correspondant ici à Berlin, la situation s'est empirée, Emmanuel, très clairement, parce que à l'époque de la publication pas si ancienne de cet article...
10 avril.
Oui, exactement. Plusieurs protagonistes cités dans cet article, plusieurs DJ, plusieurs organisateurs de soirées, propriétaires de clubs, évoquaient leur souhait de rouvrir leur club en septembre, octobre, dans cet horizon-là, disons après l'été. Et puis maintenant, bien tout le monde dit que ce ne sera pas, sans doute pas envisageable avant le mois de février. Donc l'ambiance est plutôt très pessimiste.
Oui, d'autant qu'il y a eu un événement, un petit événement, mais à l'aune de Berlin, c'est un événement important qui s'est déroulé le week-end dernier, c'était dimanche, je crois. Il y avait une sorte de manifestation festive en défense justement du sort de ces clubs berlinois qui sont si importants pour la vie nocturne et pour la vie tout court de la ville de Berlin. Et cette manifestation festive a relativement mal tourné aux yeux des Berlinois.
Oui, il faut rappeler deux choses. D'abord, c'est une tradition. Rappeler que chaque week-end de la Pentecôte ici, on gonfle son bateau et on le jette dans le Landwehr Canal qui sépare les arrondissements de Kreuzberg et de Neukölln pour profiter du week-end prolongé.
On se souviendra que c'est malheureusement dans le Landwehr Canal que avait été jeté le cadavre de Rosa Luxembourg, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la fête aujourd'hui à Berlin.
Non, autant vous dire en tout cas que ce dimanche, effectivement dimanche dernier, après plusieurs mois de confinement, il y avait une foule assez rare, assez inédite. Deuxième élément, qui sont les organisateurs de cette rave party fluviale qui ne représente qu'une toute petite partie de la culture des clubs à Berlin, faut le dire. Il y a notamment parmi eux les propriétaires du Kater Blau, qui est un club bien connu, ou plutôt fréquenté, j'ai envie de dire, plus par des touristes que par les Berlinois eux-mêmes. Peu importe, ce club, comme les autres, est en difficulté. Évidemment depuis l'épidémie et il essaie comme les autres d'attirer l'attention et de lever des fonds aussi pour survivre. Sauf que le contexte, Emmanuel, ne s'y prêtait pas, les critiques ont été très nombreuses, y compris au sein du mouvement techno et de ceux qui font partie de cette culture des clubs, des critiques de deux ordres. D'abord le contexte sanitaire, cette foule sans masque, sans respect des distances de sécurité, tant les milliers de bateaux étaient collés les uns aux autres, et puis le pompon, si j'ose dire, ça s'est passé entre autres devant un hôpital où sont soignés des malades de la Covid. Tout ça a fait le plus mauvais effet. Et hédoniste, égoïste, ignorant, antisocial, voilà ce qu'on a pu entendre. Deuxième contexte qui va de pair, hein, celui de la mort de George Floyd aux États-Unis. Mm-hmm. Berlin s'est mobilisé tout le week-end, samedi, dimanche dernier, avec différents rassemblements antiracistes et contre les violences policières en Allemagne comme aux États-Unis. Vous connaissez les derniers mots de George Floyd, I can't breathe, je ne peux plus respirer. S'il y avait bien, il y avait bien une banderole avec ces mots sur le bateau des organisateurs, il manquait le E à la fin du verbe. Tout ça a fait le plus mauvais effet. On a parlé, on a dit, un contre-productif pour la culture des clubs et de la fête, ignorant les réalités et les luttes sociales, les discriminations, une fête entre blancs et personnes de même classe sociale. C'est vrai que ça n'est pas l'ADN de la fête à Berlin, notamment des fêtes queer de la communauté LGBT qui défend une approche intersectionnelle, qui a beaucoup œuvré notamment en faveur des réfugiés accueillis en Allemagne ces dernières années et pour lutter aussi face à une extrême droite qui a repris beaucoup de force dans le pays.
Un dernier mot, non seulement Berlin est une des capitales, sinon la capitale de la fête en Europe, mais il y a un lieu qui est un lieu emblématique depuis 2004, il s'agit bien évidemment du club Le Berghain. Qu'en est-il justement de ce club qui est le plus important, pourrait-on dire, de Berlin en termes symboliques, puisque son nom résonne dans l'ensemble du monde comme étant le lieu de la fête ultime.
Le lieu de la fête ultime, le temple de la fête, le temple de la musique techno, on y vient du monde entier tous les week-ends, c'est une usine et c'est installé dans une ancienne usine hydroélectrique, donc l'espace, il faut vous imaginer une hauteur sous plafond démentielle, plusieurs dizaines de mètres, des espaces vraiment gigantesques. C'est peut-être le paradoxe pour ce lieu, c'est le lieu, j'ai envie de dire financièrement, le plus assis sur la place de Berlin, celui qui peut résister et tenir le plus longtemps face à une fermeture imposée comme celle-ci. Mais c'est aussi un lieu si gigantesque, tellement une usine, que c'est incompatible, me semble-t-il, en tout cas, avec une réouverture à très court terme. C'est pour ça qu'on entend hein, parler à Berlin de ce mois de février comme d'une perspective. Ça veut dire un an de fermeture, ce qui est conséquent pour une ville qui vit, pas que de ça, mais beaucoup de cette culture des clubs. Quand je vous dis beaucoup, c'est quasiment 1 milliard d'euros. C'est des dizaines de milliers d'emplois. Donc pour le Berghain, j'ai envie de dire, c'est un peu un cas à part. Il faut imaginer plutôt que la fête va se réinventer à Berlin, parce qu'on parlait déjà avant la Covid de la fermeture des clubs, de la fin de des nuits fauves, des nuits folles, avec plusieurs clubs qui ont fermé, notamment le Grismuleux. Mais les propriétaires des clubs, les organisateurs de soirées se disaient déjà qu'il fallait se réinventer. En fait, cette épidémie va pousser ce milieu-là à réinventer la fête. La fête va se passer davantage à l'extérieur, davantage comme avant, entre guillemets, avec des gros guillemets, l'esprit plutôt des rave parties, un peu d'illégalité, beaucoup d'extérieur, un rapport à la nature, dans des forêts qui sont immenses autour de Berlin et à disposition, y compris au sein même de la ville. Donc il y a beaucoup d'espace, des lacs, et c'est là que la fête va se réinventer tout cet été à Berlin, n'en doutez pas.
Merci beaucoup, en tout cas, Ludovic Piétonu, d'avoir ouvert ce temps du débat en nous faisant un point sur cette ville de Berlin, et ça nous permet de sauter à pieds joints, pourrait-on dire, dans notre sujet. Peut-on justement, que va devenir le sens de la fête? Peut-on le retrouver, ce sens de la fête, avec vous trois? Donc Emmanuel Lallemand, je vous représente, vous êtes anthropologue et professeur à Paris 8. Luc Verdinsky, vous êtes géographe, spécialiste de la nuit. Et Vincent Carry, peut-être directement, vous êtes le plus concerné, pourrait-on dire, tout de suite, par cette question de la nuit et de la fête, puisque vous dirigez à Lyon les Nuits Sonores, qui ont dû donc ne pas se tenir cette année, et qui se tiendront, vous l'espérez en tous les cas, l'année prochaine, du 12 au 16 mai 2021. Ce point sur Berlin, ça vous dit quelque chose de ce qui pourrait vous arriver ?
Oui, bonsoir d'abord, merci pour votre invitation. Et bien entendu, on est très sensible à la situation berlinoise, comme à celle d'ailleurs de tous nos amis acteurs culturels dans toutes les métropoles et dans toutes les plus petites villes d'Europe. Mais
oui, vous travaillez sur l'Europe en même temps, Vincent Carry. Vous avez
bien sûr, en tout cas, c'est notre territoire naturel d'échange culturel, de mobilité. On va dire que nous, en tout cas, on a un optimisme un peu plus important que celui de nos amis berlinois, manifestement, puisque on envisage une réouverture des lieux culturels nocturnes bien plus tôt que février 21. En tout cas, si tel n'était pas le cas, ce serait évidemment une catastrophe économique pour la totalité des acteurs, et pas seulement les clubs d'ailleurs, puisque nous on s'occupe d'un club à Lyon qui s'appelle Le Sucre, qui est niché sur le toit d'une ancienne usine sucrière et dont l'esthétique du bâtiment d'ailleurs n'est pas sans rappeler quelque part un peu le Berghain qui a été évoqué. Mais on est dans un secteur culturel qui crée beaucoup d'interdépendance entre des chaînes d'acteurs, bien sûr les artistes, mais aussi tout l'environnement professionnel des artistes, les labels, les agents, les tourneurs, les producteurs, toute la chaîne même des entreprises de technique, les intermittents du spectacle, etc. Et cette chaîne, elle est très interdépendante, donc si les artistes ne peuvent pas remonter sur scène et si le public ne peut pas retourner dans les lieux, alors de ce point de vue-là, il y a évidemment une cause commune entre les salles de concert et les clubs. Ils sont logés exactement à la même enseigne et avec les mêmes problématiques de sécurité et de santé publique. Il y aura une disparition massive de lieux, car l'immense majorité de ces lieux ont une visibilité économique et une sécurité économique ou une trésorerie qui est à très court terme.
Oui, vous parlez même de massacre social, Vincent Carry, c'est pas exagéré ?
Bah, pour ce qui concerne notre secteur, alors ça c'est une phrase effectivement qui a été reprise par Libération, parce que la question qui était posée, c'est comment est-ce qu'on peut réinventer les choses, effectivement en faisant référence par exemple à aux diverses tentatives qu'il y a eu de créer des fêtes en ligne, de réinventer les choses à partir de ces éléments de distanciation physique et sociale, etc. Mais on sait bien que c'est pour l'essentiel des propositions assez fantaisistes si on se réfère à la fonction aussi économique et sociale de ces entreprises culturelles, puisque par ailleurs elles emploient énormément de monde et que encore une fois elles sont aussi des vecteurs, ça a été rappelé dans votre entretien à l'instant, hein, d'attractivité territoriale, de tourisme. Ils font vivre un secteur très important, et pas seulement d'ailleurs dans les grandes métropoles, hein, dans plein d'autres territoires. Donc c'est évidemment, il y a un risque pour ce secteur-là, qui a été le premier à fermer ses portes, qui sera probablement le dernier à les rouvrir. Ouais. Et pour qui l'ensemble des ressources économiques sont à l'arrêt total, puisque derrière la question de la billetterie, la question des bars, la question de la restauration, il y a aussi la question par exemple des marques, hein, qui sont aujourd'hui, qui financent une partie de l'activité culturelle. Et qui sont également au point mort du point de vue de leur activité communicationnelle. Quoi.
Emmanuel Lallemand, vous qui avez écrit pour le magazine en ligne AOC, c'était le 1er juin, un article qui s'intitule « Au bal masqué » avec un point d'interrogation. Vous vous interrogez justement sur ce que a fait le confinement et ce que fait le déconfinement à ce sens de la fête dont nous parlons ce soir. Il y a dans ce que vous racontez effectivement à la fois la question de la distanciation physique, de la sociabilité des fêtes. Il y a également cette question d'avoir remplacé... c'était la force d'une certaine façon de ce confinement, les fêtes, les réunions entre amis par des sortes de téléconférences, des apéros Covid, des choses comme cela. Tout cela, ça a changé profondément, ça a fait un coup d'arrêt et d'une certaine façon, ça a révélé, dites-vous, ce qu'est la fête dans notre société, Emmanuel Lallemand.
Absolument. Je pense que retrouver le sens de la fête, on ne l'a pas perdu pendant le confinement. Peut-être même s'est-il d'une certaine manière révélé. En tout cas, la fête nous a manqué parce qu'elle s'est brutalement arrêtée. On a vu à quel point elle était centrale dans nos vies d'être sociaux. Surtout que nous sommes dans une société où la fête a quand même une importance. On est dans un rythme très festif. On est pris dans un rythme festif, que ce soit dans les villes, mais même aussi dans les villages. Et c'est vrai que ça s'est brutalement arrêté. Ça a même été considéré comme un facteur de dangerosité, les fêtes. Tous les lieux ont été fermés. Le fait de faire la fête a dû donc se déplacer. Et du coup, dans cette absence de la fête, on va dire dans les lieux et dans les temps traditionnels, on a vu une sorte de convivialité festive se mettre en place, qui a été intéressante à observer pour un ethnologue. Et on voit effectivement à quel point de petits rituels festifs se sont mis en place, souvent à domicile. Ce sont dans les espaces privés, évidemment, que ça s'est beaucoup mis en place. Et du coup, on a pu observer à la fois ce déplacement des lieux de la fête, à la fois les modalités avec lesquelles ont pu se produire ces petits rituels festifs, l'importance qu'a pris la technologie en fait de la proximité dans la distance, comme les apéros Skype, les FaceTime et compagnie, et puis aussi cette idée que même si on était chez soi, il y avait quand même une ritualité qui se mettait en place, une ritualité avec les autres à une heure dite et avec souvent des voisins. Donc ça s'est révélé effectivement.
Mais vous le dites vous-même, Emmanuel Lallemand, des petits rituels festifs. Or, ce que l'on associe généralement à la fête, c'est la grosse fête, c'est la grande fête, c'est des grosses soirées, c'est quelque chose qui dure et qui est long. Est-ce que ça ne va pas en contradiction, ces petits rituels festifs, justement, avec l'idée traditionnelle que l'on se fait de ce qu'est une fête dans nos sociétés.
Alors la fête est toujours associée à l'idée de transgression, à l'idée d'excès, à l'idée de débordement. Mais les anthropologues ont bien montré que bon, la fête n'est pas complètement déconnectée d'une certaine forme de routine. Elle est intégrée en fait hein, dans nos vies sociales. Quelquefois, on peut dire qu'elle redit les normes sociales. Elle vient en fait les réaffirmer. Donc la fête, certes, ça peut être la transgression. Ça peut être l'excès, mais la fête, c'est aussi beaucoup de... On se conforme dans une fête, on se socialise. Et du coup, l'idée de normes sociales est aussi très présente.
Et on reconnaît la frontière aussi. On sait voilà. Où est la frontière qu'on veut transgresser à un moment, mais pour revenir en deçà de cette frontière ensuite.
Oui, la dualité de la fête, c'est consubstantiel à la fête. C'est-à-dire, c'est à la fois de la transgression, mais c'est aussi finalement de l'ordre social, la pérennisation des groupes. Je pense notamment aux jeunes. Et c'est vrai que pour les jeunes, cet arrêt des fêtes a été particulièrement marquant. Et d'où l'idée peut-être aussi de vouloir la retrouver, de pouvoir refaire la fête, notamment pour toute une génération de jeunes qui ont particulièrement souffert aussi pendant cette pandémie et ce confinement.
Luc Wiatynski, vous qui travaillez depuis très longtemps maintenant en tant que géographe sur la question de la nuit et qui allez publier la semaine prochaine avec William Stroh et Marco Maggioli aux éditions Elia un ouvrage qui s'intitule Night Studies, justement les études sur la nuit. Est-ce que vous pourriez justement nous expliquer, puisque vous avez mené, je crois, une enquête à distance pendant le confinement auprès des professionnels de la fête, pourquoi ils ont l'impression, ces professionnels de la fête, que la nuit a été la grande oubliée du déconfinement. Non pas du confinement, mais du déconfinement.
Ben, tout d'abord, c'est intéressant de voir qu'en fait, on est face à des fragilités. Et c'est difficile d'imaginer, il y a quelques mois, qu'on aurait des villes, des nuits et des fêtes sans contact. C'est complètement...
Ça, c'est sûr.
Incroyable d'imaginer ça. Parce que la ville, c'est le lieu de maximisation des interactions.
Ouais.
C'est là qu'une partie de notre culture, notre urbanité, c'est pas possible. La nuit, au moment où les barrières tombent, c'est pas possible. Et les acteurs de la nuit, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est les premiers qui ont été touchés, on a fermé du jour au lendemain. Oublié, parce qu'on était sur d'autres questions qui semblaient plus essentielles et on s'est pas rendu compte. On s'est rendu compte au fil du temps que ces acteurs, ils tenaient finalement la culture, ils tenaient le fonctionnement de nos villes, le fonctionnement de nos quartiers, de nos parcours, de tout ce qui est ce qui fait l'espace public, bars, restaurants, discothèques, salles de concert, ça a été dit. Et c'est vrai que c'était pas mis en avant et on s'est rendu compte de l'importance de ça. Donc après, pendant le confinement, ces acteurs se sont organisés, les fêtes à distance, les événements en ligne, une espèce de fête en archipel. Le géographe que je suis voit une espèce de forme en archipel, mais avec un manque qui a été précisé, le contact, l'émotion, la question des corps, et puis un modèle économique qui est pas viable. Alors il y a eu les fêtes en famille, ou entre quelques-uns, et puis il y a eu les fêtes qui m'intéressent, qu'on verra surgir tout à l'heure, enfin, ou plus tard, c'est les fêtes clandestines, c'est-à-dire celles dont on commence à parler dans toutes les villes. On parle d'un bar clandestin, d'une petite fête clandestine, mais je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, lors du déconfinement, les acteurs se posent un certain nombre de questions et le font avec les pouvoirs publics. Ça, je trouve que ça, c'est quelque chose d'intéressant.
En responsabilité, comme on dit aujourd'hui dans le milieu politique.
Oui, c'est-à-dire que bon, ils ont été accompagnés. Alors il y a toujours il y a des acteurs qui passent à travers les mailles du filet ou voilà, mais quand même, il y a eu un travail. Moi, j'ai entendu ça dans les enquêtes et dans les échanges qu'on a fait à Bordeaux, à Nantes, à Grenoble, à Paris. La solution, elle passe, et c'était dit dans le reportage sur Berlin et puis après il s'est passé ce qui s'est passé, mais ça passe par l'espace public, ça passe par l'extérieur, ça passe peut-être par le jour. Donc à force de repousser la nuit, ça passe par le jour et ça passe par là où il y a de la place. Là où peut-être il y a des friches, et donc pour Paris, qui est évidemment pas Berlin, qui n'a pas la même densité et autres, c'est peut-être une chance pour au-delà du périphérique où il y a une partie de sa place. Ça passe aussi par une réflexion géographique. C'est intéressant de voir que les acteurs, on en a parlé même dans un colloque avec Technopole, réfléchissent en termes de proximité, des fêtes de proximité, puis peut-être des fêtes métropolitaines, mais une espèce d'écosystème, et une diffusion de la fête. Et puis ça passe aussi par une réflexion Sur une offre globale, c'est-à-dire que tout, quand les acteurs sont réunis, nous on travaille avec des petits écosystèmes, des petites plateformes d'acteurs un petit peu partout, et ils nous disent en fait qu'il y a une réponse qu'ils doivent apporter à cette après la fête d'après, c'est travailler ensemble et essayer de se coaliser là où ça existe, c'est bien, là où ça n'existe pas, essayer de le faire, et avec un acteur dont vous avez parlé au début de votre émission, c'est les riverains. Ouais. Cette idée de cohabitation, et le confinement a amené, dernier point, a amené quelque chose de très intéressant qu'on a vu surgir, c'est une réflexion à long terme sur une fête plus éthique. Eh bien, est-ce que le modèle du DJ qui vient de l'autre bout de la planète, qui reste une nuit, qui repart le lendemain, ça a un sens? Est-ce que on peut accueillir, comment on peut faire pour accueillir un petit peu plus tout le monde? Comment on récupère le matériel? Comment quel rapport on peut avoir entre guillemets avec la nature, avec les rythmes, et puis aussi avec l'écosystème urbain en général? Ça, c'est quelque chose, vous voyez, il y a une réaction à court, moyen et peut-être
plus long terme.
Peut-être long terme, ouais.
On va y revenir dans un instant avec Vincent Carry, mais il est 18h40. Vous écoutez France Culture, le temps du débat consacré à la question: peut-on retrouver le sens de la fête, avec Luc Dviadinski que vous venez d'écouter, Emmanuel Lallemand et Vincent Carry.
Le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Be Mine Tonight, un titre tout récent. On pourrait croire que c'est un titre des années 70, ou du moins une copie des titres des années 70, mais il s'agit du groupe Breakbot. Vincent Carry, quand vous entendez par exemple Emmanuel Lallemand ou Luc Dviadinski dire que tout compte fait, il y a des choses qui n'ont pas été si mauvaises à prendre, en particulier une réflexion sur la manière de faire la fête, de discuter avec les riverains, ou alors de récupérer cet apprentissage, pourrait-on dire, des fêtes en intérieur pour l'extérieur. Qu'est-ce que vous en dites en tant que professionnel et donc responsable des nuits sonores à Lyon?
Bah, je dirais oui, absolument. Il y avait beaucoup de sujets qui étaient déjà en germe d'ailleurs avant la crise sanitaire, puisque bien sûr. Je crois que une immense majorité des acteurs culturels qui composent cet espace de liberté, de rencontre qu'est le territoire de la nuit, sont effectivement ultra conscients et ultra responsables des enjeux sociopolitiques, territoriaux qui les entourent.
Mais vous dites d'ailleurs que le dance floor, c'est un ring politique, dites-vous.
Oui, c'est vrai, je le crois sincèrement. C'est un endroit où se croisent, et vous en avez cité quelques-uns, mais où se télescopent beaucoup d'enjeux aujourd'hui qui tiennent à notre démocratie, et comme elles sont des enjeux qui touchent dans nos lieux et dans nos espaces culturels effectivement beaucoup la jeunesse. C'est un ring qui est très très agité, mais qui est passionnant. On se croise des questions aujourd'hui de genre, de sexualité, de santé publique, de racisme, d'appropriation culturelle, d'écologie, ça a été dit. Je crois que toutes les questions qui ont été posées, ces acteurs-là se les posent également, et depuis
un certain temps déjà.
Nous, en tout cas, elles sont mises au débat dans nos espaces de façon très très large. Et d'ailleurs, la fermeture des lieux vient aussi créer ce vide à l'endroit de ce débat, à l'endroit de cette, cette contribution démocratique qui est un, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui, ou de citoyens au sens le plus large d'ailleurs, qui se servent aussi de ces lieux comme d'espace de connexion, de rencontre, de débat, de contestation, etc. Et donc moi j'ai toujours un peu d'ailleurs nié le fait que les acteurs de la nuit seraient des individus simplement hédonistes et parfaitement inconscients de tout ça. Nous par exemple à l'entrée du sucre, on a dès l'ouverture il y a 7 ans écrit une charte qui indique toutes les libertés auxquelles on croit, toutes les valeurs aussi qui sont les nôtres en termes d'accueil, en termes de respect, en termes de protection des gens que nous accueillons, mais aussi de diversité, de mixité sociale, etc. Et je crois qu'on est très très loin d'être les seuls dans ce cas-là. C'est aussi un monde qui souffre encore peut-être d'une image sulfureuse d'il y a quelques décennies. Mais c'est un monde dont la responsabilité, je dirais, est éprouvée au fil des années. Hein. D'abord, sur la question sanitaire, la responsabilité de ces établissements et de ces festivals, de ces clubs, de ces salles de concert est énorme. La responsabilité en termes de sécurité après l'épreuve du Bataclan, c'est un secteur qui a énormément souffert. D'abord, souffert psychologiquement, dans la peur d'aller travailler pour un certain nombre de gens, et puis dans le fait qu'on fait évidemment pas ce métier, on s'engage pas dans ce terrain de la liberté et de la nuit pour être dans la surenchère sécuritaire, pour être dans la surenchère sanitaire, et pour autant on est bien obligé de s'y confronter, et on le fait avec le sens des responsabilités qui a été évoqué tout à l'heure.
Et tout à l'heure vous évoquiez les difficultés sociales qu'il pourrait y avoir à voir ce secteur dépérir d'une certaine façon. On a appris très récemment que Dehors Brut, par exemple, qui était un club parisien très important, allait fermer ses portes. Bon, il y a eu beaucoup de difficultés pour ce club qui a ouvert à l'été dernier, puisqu'il y a eu une fermeture administrative à la suite d'un décès d'un client. Ça, c'était donc en septembre 2019. Mais néanmoins, c'était un club très important qui était héritier d'autres clubs dans la capitale. Ça vous fait peur, justement, Vincent Carry? Vous pensez que vous aurez les uns ou les autres les reins assez solides pour pouvoir, justement, à la fois vous transformez avec cette épidémie et donc en inventant de nouveaux lieux ou de nouvelles choses, et en même temps tenir le coup économiquement?
Évidemment, c'est une menace qui est extrêmement importante, et elle pèse d'ailleurs sur tout le secteur culturel indépendant. On a lancé un appel dans ce sens-là.
L'appel des indépendants.
Absolument, parce que tout le secteur aujourd'hui culturel qui n'est ni sous la régie directe ou sous la tutelle directe des collectivités, quand bien même parfois avec une part de financement public, mais sans être directement rattaché à une collectivité ou à l'État, tous ces acteurs culturels qui ne sont pas non plus sous la protection économique de grands groupes de l'entertainment dans le domaine de la musique ou de l'édition.
Oui, genre Live Nation ou des choses comme ça, oui.
Oui, ou même dans le domaine d'ailleurs de l'édition ou des médias ou d'autres. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont non affiliés à ces grands groupes également étaient déjà dans une situation souvent très fragile avant cette crise. Et on voit aujourd'hui qu'elle impacte de la même façon les petites salles de concert, les clubs, les festivals, qu'elle impacte aussi les éditeurs, les disquaires et les libraires indépendants, etc.
Bien sûr.
Donc c'est tout un secteur dans une grande transversalité qui est aujourd'hui en danger économique très, très, très grave.
Emmanuel Lallemand, dans votre article pour AOC, vous n'étiez pas très pessimiste. Vous regardiez en tant qu'anthropologue tout ce qui était né pendant ce temps du confinement, dans ce moment de vie arrêtée. Et vous disiez tout compte fait que ce qui allait peut-être revenir, c'était la conclusion de votre article, c'était la pulsion dansante comme prémisse à une fureur à venir. Donc vous voyez le monde moins en noir que certains dans ce domaine de la fête, c'est-à-dire, vous preniez l'exemple de ce qui a été filmé, partagé sur les réseaux sociaux, sur cette petite fête qui a duré quelques minutes, improvisée mais saisie par un téléphone portable dans le 18e arrondissement pendant le confinement, des gens qui dansaient sur du Dalida avec des enceintes qui avaient été mises sur un balcon du 18e arrondissement, et tout le monde disait voilà, ce sont des bobos irresponsables qui vont transmettre la maladie. Vous dites tout compte fait, la pulsion dansante est derrière tout ça.
Oui, sans doute, il y a une pulsion dansante, mais c'est pour faire écho à ce qui a été dit aussi, c'est que derrière la fête, il y a quand même toujours à l'horizon peut-être la sédition, la mobilisation. L'espace peut, la fête peut être un espace aussi politique, un espace de mobilisation. Le confinement a été quand même une grande expérience de l'obéissance sociale, plus que de la transgression. Et c'est vrai que la moindre petite transgression, et notamment dans l'espace public, a été très marquée, a été très médiatisée dans cette grande expérience de l'obéissance. Donc la question de la fête, c'est pas du tout une question complètement déconnectée en fait de ce qui se passe par ailleurs. Ça vient d'être dit. Ce qui se joue dans la fête, c'est ce qui se joue dans la société. Et donc oui, peut-être effectivement à l'horizon de ces rassemblement festif, y a-t-il les grandes questions de notre société, peut-être aussi les grandes mobilisations futures. Et je crois que ce que partagent d'ailleurs aussi bien les professionnels de la fête que tout un chacun, les particuliers qui ont mis en place des modalités de fête, c'est finalement aussi d'avoir une grande réflexivité sur ce qu'est faire la fête. On parle effectivement de cette responsabilité, de la morale qui va avec, des grandes questions éthiques. Je pense qu'effectivement, on est tous dans une réflexivité. Où faire la fête? On se pose des questions que d'habitude, peut-être, on ne se pose pas. Où faire la fête? À combien a-t-on le droit de faire la fête?
Eh oui.
Avec qui, finalement?
Est-ce qu'une fête à 10, c'est la même chose qu'une fête à 2000?
Absolument. Et est-ce qu'on a le droit de faire une fête dans ces circonstances-là? Avec qui? Comment doit-on le faire? Donc, finalement, ça montre aussi que tout ce qui est de l'ordre de l'enchantement de la fête, comme l'avait d'ailleurs montré Yves Vinquin dans son ingénierie d'enchantement, mais finalement, toutes les ficelles, on va devoir un peu les voir, on va devoir un peu les rendre conscientes, les conscientiser, se poser peut-être des questions qu'on ne se posait pas d'habitude, mais rendre finalement encore plus évident le fait que la fête n'est pas un phénomène spontané. En fait, une fête, c'est codifié, c'est réussi ou pas, il y a des ingrédients pour la fête, il y a de l'ingénierie derrière, et finalement, c'est peut-être ce qu'on va partager entre professionnels et particuliers, c'est peut-être toute cette réflexivité ordinaire qui ne va pas, qui va aller aussi de pair avec une forme d'inventivité, je pense. Hein.
Oui, évidemment, c'est vrai que en utilisant un outil comme l'outil des rencontres en entreprise pour pouvoir faire la fête, c'était d'un seul coup peut-être aussi faire tomber de l'ordre de ce qu'était une fête chez soi. Évidemment, on a utilisé l'outil du télétravail pour faire la fête chez soi, c'était un peu particulier. Luc Wierdzinski, vous nous disiez tout à l'heure qu'après avoir discuté en tant que géographe et spécialiste de la nuit avec des professionnels, des gens qui font la fête et qui sont des professionnels de la nuit, eh bien, ils imaginaient que peut-être il y aurait justement une nouvelle dissidence qui pourrait naître dans des lieux à nouveau dissidents, en périphérie de nos grandes villes, par exemple. Qu'est-ce que vous en savez ou qu'est-ce que vous imaginez autour de ça, Luc Wierdzinski?
J'imagine ce que peuvent nous dire les professionnels, ce que peuvent nous dire aussi les gens de la fête, c'est-à-dire
un peu comme dans les forêts berlinoises dont nous parlait Ludovic Piétonu au tout début, c'est-à-dire on regagnerait des espaces semi-sauvages pour pouvoir faire l'équivalent des grandes rêves d'origine.
Partout où il y a de l'espace, en fait, c'est reconquérir des endroits où il y a de l'espace, puisque en tant que géographe, on dit toujours la richesse, c'est l'espace. Et aujourd'hui, avec le déconfinement...
Oui, en tant qu'historien, on dit la richesse, c'est le temps, donc c'est normal qu'on soit pas d'accord là-dessus.
Donc, en fait, avec vous. C'est intéressant. Non, mais ça veut dire qu'on peut relire les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'il y a une chance pour des espaces plus périphériques, pour des espaces où il y a moins de... où les choses sont moins saturées. Et quand on réfléchit évidemment à la géographie de Paris, il y a toujours ce débat qui n'est pas là à Berlin, qui n'est pas là de la même façon à Londres non plus, entre ce qu'il y a à l'intérieur du périphérique et ce qu'il y a à l'extérieur. Donc les hypothèses qu'on peut faire, c'est sur la diffusion de la fête, c'est sur son caractère peut-être plus nomade, système un peu à rotation rapide, on l'a dit sur l'éthique, peut-être plus périphérique aussi, mais je pense qu'il est important quand même, et là c'est pour interpeller peut-être celles et ceux qui fabriquent la ville, c'est de se dire qu'il y a une citation que je reprends toujours de Krakauer qui disait on reconnaît une ville à la place qu'elle laisse à l'improvisation. Et je pense que sur la question de la fête, il y a ça, parce qu'on a parlé des fêtes et des rituels, les fêtes qui sont dans les calendriers et tout, et puis il y a, Manuel Lallemand le disait, la catharsis, la fête improvisée, la meilleure des fêtes, c'est la fête improvisée. Donc si on veut la possibilité de résister à une crise, on voit bien que c'est dans un espace public qui est libre et sur lequel on va pouvoir cohabiter, redonner un sens au parc, à des espaces libres. Et c'est vrai aussi pour la fête, donc elle va peut-être nous donner un contre-calque de ce que pouvait être la ville d'avant, avec une chance redonnée à des endroits, des espaces plus plus libres. Mais ça va créer des débats, ça va créer des tensions. Et moi, je pense toujours que la nuit, la fête, ont des choses à nous dire sur la ville de jour. Donc cette cohabitation, il faut qu'on réussisse de jour pour des questions économiques, culturelles, mais aussi d'urbanité. Parce que ce jour-là, si on prend des mauvaises habitudes sur le vivre ensemble à distance, il me semble qu'on risque de questionner à plus long terme nos modes de vie et nos modes de ville.
Oui, Vincent Carré, vous avez beaucoup insisté sur le caractère responsable, effectivement, des gens qui organisent comme vous la fête dans des grandes villes, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'il va y avoir forcément des fuites, d'une certaine façon, des fuites vers l'ailleurs, des fuites qui permettront d'organiser des dissidences, pourrait-on dire, avec cet ordre de la fête dont vous nous parliez tout à l'heure.
Oui, bien sûr, mais ça a d'ailleurs toujours été le cas.
Bien sûr, évidemment.
Les raves et les fris n'ont jamais cessé depuis leur apparition, depuis l'émergence de la culture techno. Elles ont toujours été présentes et souvent d'ailleurs à bon escient et avec un espace culturel passionnant aussi à cet endroit-là. Elle a souvent cohabité d'ailleurs avec la club culture en parallèle et avec des points d'intersection. De la même façon, à Paris, la fête parisienne n'a pas attendu le Covid pour franchir le périph, puisque depuis déjà plusieurs années, du côté de Montreuil, Pantin, etc., c'est d'ailleurs plus vrai à Paris que dans les
on
autres.
On parlait dans une émission récente du péripate, effectivement, de ses difficultés à survivre, par exemple, effectivement.
Absolument. Absolument. Et aujourd'hui, il y a quand même un point qui est à noter, c'est que nous, on est là pour mettre en scène les conditions d'accueil du public et leur donner quelque part le plus de liberté possible. Et c'est ce travail que vous avez d'ailleurs évoqué, au même titre qu'un théâtre le fera pour mettre en scène un spectacle. En effet, il y a des conditions à réunir pour que la communion qui peut se produire sur un dance floor quand un artiste vient réunir ensemble, faire une tension, une effervescence extraordinaire. Et c'est des moments pour lesquels on s'est tous battus parce que ils ont été sans doute parmi les plus beaux moments de nos existences de rencontres, de communion, de ces instants magiques qu'on a pu connaître. Et ce sont des conditions, en effet, d'ingénierie qu'il faut derrière pour le réussir souvent.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous n'êtes pas comme un autre grand moment de la fête, mais à Paris ces temps-ci, c'est-à-dire We Love Green, vous n'étiez pas favorable à faire de la fête digitale avec les nuits sonores. Vous avez décidé de ne pas avoir, justement, une sorte de substitut, pourrait-on dire, à la fête physique avec vos nuits sonores. Très brièvement.
On n'y était en effet pas spécialement favorable. On a fait quelques expériences avec le sucre, avec notre club, pour maintenir une communauté ensemble et pour aussi créer du lien dans ce moment. Mais on croit exactement à l'inverse. On croit que le dance floor, c'est certes un ring politique, mais c'est aussi un espace de connexion physique. Mmh. Et il faut être ensemble, il faut être en proximité. C'est la sueur, c'est l'exact opposé de cette distanciation. Et je crois qu'il faut garder cette idée-là.
Merci beaucoup à vous, Vincent Carré, d'avoir été avec nous pour évoquer votre travail aux Nuits Sonores à Lyon. Merci à vous, Emmanuel Lallemand. Je conseille évidemment, entre autres, pour ce sujet, la lecture sur AOC, donc le magazine en ligne, la lecture de votre article du 1er juin consacré au bal masqué. Et pour vous, Luc Wazinski, eh bien, on attend la sortie de vos Night Studies avec Marco Maggioli et William Straw. C'est la semaine prochaine chez Elia. Et on termine avec un titre de Milsart, cette émission consacrée à la fête. Peut-on retrouver le sens de la fête? Une émission préparée comme d'habitude par toute l'équipe du Temps du Débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Antoine Tricot, Fanny Richer, Rémi Baille et Manon Prissé à la technique aujourd'hui, Jacques Ezubert, à la réalisation Perret Legras. Si vous voulez continuer à lire nos articles préparés par l'équipe du Temps du Débat, les articles que nous demandons à des intellectuels, des scientifiques, des écrivains, des artistes du monde entier sur ce qui nous est arrivé avec cette crise de la Covid, eh bien, vous pouvez lire aujourd'hui l'article de l'historienne états-unienne Jennifer Heuer qui s'est retrouvée bloquée dans sa Nouvelle-Zélande natale. Ça a été son confinement à elle. Elle nous le raconte sur le site de France Culture.